Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de des antipodes, j'allais dire de la lutte WWE Raw. Wow!
C'est parce que les gens doivent comprendre qu'avant de faire le pod le mercredi, on s'en va taper la lutte WWE Raw à TVA Sports.
Je suis même pas changé, j'ai gardé mon polo de la WWE. Fait que j'étais encore dans un mood WWE, donc Pat Laprade, K.R. Kevin Raphaël avec vous.
Moi, je capote parce qu'on a quelqu'un d'important qui vient nous parler aujourd'hui.
Ben, on a un gros show, là, pour vrai.
On a un gros show. On a une invitée de marque, Deonna Purrazzo.
Deonna Purrazzo.
Faut pas que je me trompe pour quand je vais
non,
y parler, là.
Mais faut surtout pas que tu l'appelles Parasuco.
Mais ça, c'était mon personnage dans le show.
Exact.
Mais Deonna Purrazzo qui va venir nous parler à ses fêtes.
Ben c'est une lutteuse d'NXT qu'on a vue à Raw il y a deux semaines et qui a malheureusement fait partie des coupures de la WWE de la semaine dernière. Et alors elle va venir nous parler de ça, nous parler de sa carrière et nous parler également de comment elle a vécu la situation la semaine dernière.
Puis de ce que je comprends, on est sa deuxième entrevue, mais moi je peux vous confirmer qu'on est sa meilleure parce que moi là, puis là, tu sais l'entrevue, on va l'enregistrer, on va interrompre le pod, on va enregistrer l'entrevue, puis dans le montage, vous allez voir où elle va apparaître. Là, mais moi, je vous le dis avec mon chest maintenant, j'ai des questions que je veux lui demander, puis je la connais pas personnellement, c'est pour ça que je vais lui poser ces questions-là.
Ben, excellent,
Je l'ai fait pour les gens du pod, puis si Deonna Purrazzo m'aime plus, ben c'est pour vous autres que je l'ai fait. N'oubliez pas de nous écouter sur Cube, Stitchers, Google Play, Apple Music, Spotify. Laissez-nous 5 Star Frog Splash. Laissez-nous des commentaires positifs, sinon on lit pas. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux @KevinRaphaël21, @PatLaprade. Shout out à Fred à la console. On ne le mentionne jamais, mais là je veux qu'on mentionne à chaque épisode.
Non, on le mentionne.
Ouais, mais on le mentionne.
Il y a même déjà parlé.
T'as déjà parlé, Fred?
Ben oui. Ben
oui, Fred, il dit à moitié.
Ben oui, c'est parce qu'il s'est excusé après.
Mais je veux juste dire aussi, il y a vraiment beaucoup de nouvelles personnes qui écoutent le pod.
Ouais.
Parce que je m'en rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous tweetent, qui nous ont jamais tweeté, ou il y a peut-être des gens qui se dégênent à nous tweeter par rapport au pod. Continuez, on aime discuter avec vous sur les réseaux sociaux.
Mais il y a quelqu'un qui est là depuis le début, et il a fallu le caller out, il a fallu en parler pour qu'il revienne à lui, qu'il ressuscite, là, c'était le miracle de Pâques.
Pat, quand j'ai vu son tweet, j'ai crié chez lui. J'ai dit, Nelson Cyr, celui qui a, il s'est battu pour qu'on ait le podcast aux semaines. Et on n'avait pas de questions depuis lui depuis au moins 2-3 mois, là. Depuis la nouvelle année, là.
Ouais.
On n'avait pas eu de questions de Nelson.
Il avait pris une sabbatique, là. Il était sur un congé sans solde, là.
Mais Nelson, il nous a tweeté pour nous dire, bon podcast, je vous écoute toujours. Et ça, là, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas d'aller écouter les antipodes extra cette semaine. C'était Vengeance 2006. Beaucoup de gens nous ont parler de ce podcast-là, continuez à l'écouter. Et on va avoir un spécial Dino Bravo. Pat, publiquement, je veux mentionner, yo, t'as explosé le documentaire. Félicitations.
Merci beaucoup.
Explosé le documentaire. Là.
On parle bien sûr de Dark Side of the Ring, l'assassinat de Dino Bravo qui a été diffusé mardi de cette semaine dans lequel j'étais interviewé.
Ben, le big, t'es dans le documentaire là, plus que la moitié, là. Je pense qu'on t'entend plus qu'on entend Claudia, sa fille. Comme.
J'avais aussi travaillé un peu en arrière-scène, coordonné un peu les entrevues à Montréal, mettre en contact le Gino Brito, Tony Mullet, Claudia avec les gens du documentaire. J'ai fait des entrevues, on m'entend même.
Oui,
on m'entend poser une question ou deux à Claude Poirier. J'avais également interviewé Claudia, que j'ai adoré dans le documentaire, mais on va avoir la chance d'en parler dans les Antipodes Extra, puis on va avoir un invité surprise aussi dans cette...
Bon,
dans
tu peux le dire, je pense que c'est cool.
Ben, je pense que oui, on va avoir le co-créateur de la série Dark Side of the Ring, Evan Husney, qui va être avec nous pour nous parler justement de Dino Bravo puis de la série en même temps.
Et je voulais rendre hommage au travail des gars de Dark Side of the Ring, hommage au travail de Pat. Fait que j'ai fait vraiment beaucoup de recherches pour les antipodes extra. D'habitude, on les sort aux deux semaines. On en a sorti un cette semaine. Mais là, vu que c'est tout frais, tout chaud, il y a beaucoup de gens qui vont avoir le temps d'écouter le documentaire sur Dino Bravo. On sort lundi prochain celui-là. Donc,
parfait. Exact. Puis ça va te laisser le temps de travailler sur tes R parce qu'il y a beaucoup de R dans Dark Side of the Ring.
Je sais,
donc,
man.
Je sais, c'est assez.
Pipi les R, là, Parusco, là. Mais n'oubliez pas d'aller écouter aussi mon podcast podcast sans restriction où je rencontre des athlètes, des artistes. Cette semaine, Kim Clavel et Marc-Édouard Vlasic. C'est demain, ça. Donc, c'est vendredi. Ah, ben, c'est demain pour les gens qui l'écoutent. Ouais, donc, vendredi, Marc-Édouard Vlasic qui me raconte comment Joe Thornton. Lui, quand il est aux toilettes, il ferme pas la porte.
Ah! Ben donc, moi non plus, mais je suis tout seul chez
lui. Ouais, mais lui, il fait ça même quand il y a les parties du Super Bowl chez eux. Et Marc-Édouard a une histoire incroyable là-dessus. Donc, allez vous abonner sur les sans restrictions Instagram et sur les différentes plateformes.
Un de mes bons amis, Kev, a joué au hockey puis il a fait les championnats mondiaux de moins de 17 ans avec Joe Thornton. C'était son co-chambreur. Pierre-Luc Therrien, gros chaleur à Pierre-Luc, qui a été repêché par les Capitals de Washington. Malheureusement, il a jamais eu la chance de jouer dans la Grande Ligue, Ligue américaine, East Coast. Qui a également joué pour les Chiefs à Laval. Il a gagné la Coupe Futura avec les Chiefs à Laval dans les bonnes années des Chiefs.
Puis finalement, dernière plug, mais avant dernière plug, livre Pat Laprade, n'oubliez pas d'aller vous le procurer sur ECW Press. C'est ça?
Oui.
OK. C'est la version anglaise seulement. Par contre, vous pouvez vous le procurer. Ils vont vous envoyer une version électronique le temps que le livre arrive.
Le livre sur André the Giant.
Ouais, sur André the Giant. Fait que là, tu peux commencer à lire. Et là, Pat, moi, je t'ai vu faire toutes les entrevues de l'histoire. Là. Félicitations. J'ai hâte qu'on puisse en parler en long et en large sur les antipodes de la lutte quand ça va sortir au Québec. Oui. Et bon, là, moi, là, j'ai poussé.
Ouais.
OK. Pat, il sait pas. Fred, il sait pas.
Okay. Il a poussé de la fonte? Non, non.
Pousse de la fonte.
Clairement, je te regarde, puis non, là. Oh, et les bras, mais c'est tout, là.
Ouais, moi, je pointe mes bras pendant que je fais de la radio. Bravo, Kev. ça se peut que j'aille des nouvelles pour un t-shirt officiel des antipodes de la lutte.
Oh, pour vrai?
Au courant des deux prochaines semaines.
Ouh!
Je travaille là-dessus.
Wow!
Je travaille là-dessus. Puis ça se peut qu'on en aille un. Moi, ce que j'ai vraiment besoin de savoir, c'est si vous allez l'acheter. OK. Dites-nous sur les réseaux sociaux si vous voulez votre chandail officiel des antipodes de la lutte. Et je vous dis, il est vraiment, vraiment nice. Comme, OK.
Je veux pas tirer les verres du nez, mais est-ce que le design, est-ce que c'est le design de quelqu'un qui a participé, qui a envoyé des designs sur les réseaux sociaux? Presque. Inspiré de.
C'est inspiré de.
Mais dis-en pas plus, là, c'est pas grave, là.
Mais je vous dis, j'essaie de trouver une image pour la montrer.
Pour vrai, là, tu me dis ça, puis même moi, je le sais pas, là.
Non, parce que j'ai réglé ça au début de la semaine.
Mais ouais, tu gardes ça aussi près de tes scoops que t'as un peu partout dans le milieu du sport. Tu me dis rien.
Ben, non, arrête, je t'ai donné un méchant scoop. Un scoop que vous allez entendre sur le podcast sans restriction durant les prochaines semaines. Là, restez à l'affût. Mais regardez.
Restez à l'affût. Depuis quand tu dis ça?
Je vais montrer à Pat quelle compagnie ferait notre t-shirt. Puis vous allez avoir sa réaction en live. C'est pas notre t-shirt, là. Mais c'est la compagnie qui le ferait, OK? T'es prêt?
Ouais. Mais j'ai une idée de ce que tu vas me montrer. Et là, ça a changé. Puis c'est marqué la rose. Ou la robe. C'est marqué la robe. Fait que je sais pas quel genre de t-shirt t'as en tête.
Tu connais cette compagnie?
Aucune idée c'est quoi.
Ben là, Pat...
Moi, je pensais que t'allais me montrer Pro Wrestling Tees.
Bon, les nouvelles, là. Ça, c'était anticlimactique, là.
Mais je sais pas c'est quoi. Je pensais que t'allais me montrer Pro Wrestling Tees.
Yo, c'est anticlimactique, en tout cas. Olivier,
j'espère
là...
que vous allez l'acheter quand même. Le t-shirt risque d'être cool, mais... Oui. Je sais pas plus c'est quoi la compagnie.
Bon, Olivier Locke, le commissaire de la XFL, poursuit Vince McMahon pour avoir mis fin à son contrat sans motif. La poursuite a été envoyée la semaine dernière. Locke prétend avoir rempli toutes ses obligations de la ligue. Puis il s'est fait mettre à porte là. Dans la poursuite, c'est Vince qui est nommé, mais il va chercher à faire changer ça pour que ce soit Alpha Entertainment qui soit
nommé. C'était la compagnie Alpha Entertainment que Vince avait créée justement dans la foulée là de la renaissance de la XFL. Ouais. Hey, écoute. La XFL va avoir eu des impacts non seulement évidemment sur ses propres employés et la ligue comme telle, mais comme on en a parlé la semaine dernière sur toute la WWE. Donc pour vrai, une situation vraiment triste qui se passe en ce moment. Mais malheureusement les affaires sont les affaires. Puis j'imagine que il y a des décisions des fois qui sont plus déchirantes que d'autres. Puis c'est sûr que là ce qui s'est passé la semaine dernière ça en fait partie.
Je voulais qu'on en parle sur le pod parce que je pense que ça va jouer éventuellement sur plusieurs décisions qui vont être prises. Et là, comme je vous dis, on enregistre le mercredi comme à l'habitude. Demain, c'est l'appel des investisseurs. Habituellement, c'est à 11h. Et là, pour la première fois de l'histoire, ça va être à 17h. Donc, lorsque les marchés boursiers vont être fermés.
Ouais. Mais l'action de la WWE, là, elle a augmenté, hein, tu sais. Entre l'annonce de la faillite ou de se protéger sur la loi de la faillite que la XFL a fait en début de semaine et jeudi, qui était le lendemain de toutes les mises à pied, l'action a monté. Puis, veux pas, là, je sais que c'est plate. Puis, il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par ça. Mais, en même temps, c'est la triste réalité des affaires. C'est qu'à un moment donné, faut que tu fasses faut que tu fasses des moves, faut que tu fasses tu prennes action quand t'as un problème financier de la sorte pour justement s'assurer. Vince McMahon a des responsabilités envers les investisseurs de la WWE et ben visiblement ça a fonctionné parce que l'action a pas baissé et ça aurait pu être vraiment plus catastrophique que ça. Donc ça explique aussi en partie les renvois et les mises à pied de la semaine dernière. En même temps, quelqu'un m'a fait mention de ça, Kevin. Si tu regardes la liste de ceux qui sont partis de la WWE, là, je parle pas du monde de NXT, mais de la WWE, il y en a beaucoup là-dedans qui avaient demandé à un moment ou un autre dans les dernières années leur release, là, qui avaient demandé de partir.
Je suis d'accord.
Donc, à un moment donné, il y a des gens là-dedans qui sont peut-être, sans nécessairement être contents, mais qui sont peut-être soulagés que finalement, ils peuvent quitter et passer à autre chose. T'sais? Et on se posait une question la semaine dernière, Kevin, on se demandait si la clause de 90 jours était pour être appliquée, et elle l'est appliquée. Donc, les lutteurs et lutteuses qui ont quitté la semaine dernière, ben ils vont... ils ont une clause de 90 jours dans laquelle ils n'ont pas le droit d'aller lutter ailleurs. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi Sarah Logan, on a parlé d'elle cette semaine, parce que si t'as remarqué, à Raw, on a nommé son nom
3 fois.
Ça n'a aucun bon sens le nombre de fois. Et à la base, elle était censée revenir à Raw. Finalement, la décision a été de pas l'utiliser. Mais pourquoi on pouvait l'utiliser? Pas parce qu'elle a re-signé avec la compagnie ou qu'elle a été réembauchée. Tout simplement parce que la WWE prétend que, ben, durant la clause de 90 jours, on continue à payer ces gens-là. Donc, on a quand même un droit de regard. Et si on veut les ramener pour un match ou deux, Drake Maverick avec le tournoi NXT, c'est aussi la même situation. Ben, on peut les utiliser quand même, parce que pendant 90 jours, on les paye. C'est un peu le même principe, là. Ceux qui connaissent un peu les lois du travail ici au Québec, un préavis. Tu sais, si tu donnes un préavis si tu reçois un préavis de 2 semaines à ton emploi, ben pendant 2 semaines, ton employeur te paye, fait qu'il va te faire travailler, tu sais. Fait que c'est un peu la même situation, sauf que ça, c'est 90 jours. Mais c'était du jamais vu avant. On n'avait jamais utilisé ou même parlé de quelqu'un qui avait été congédié. Donc, clairement, moi, tu sais-tu l'autre chose ce samedi?
Oui.
Si t'as remarqué, à Raw, principalement à Raw, il y a beaucoup de gros noms qui sont pas là.
Ben, c'est ça que j'allais te demander, puis je voulais pas te mettre en the spot, mais Kev est pas là.
Ouais.
Fait 2 semaines.
Ouais.
Puis je sais pas si t'as un in là-dessus, mais...
Mais Seth était pas là cette semaine.
Seth est pas là, Becky était pas là.
Non.
Le show est sur les épaules.
Roman n'est pas.
Ouais, mais ça c'est depuis. Ils ont même pas le droit de mentionner son nom.
Mais il est pas revenu non plus.
Il est pas revenu. Et ça, le show il est sur les épaules de Drew McIntyre et Zelina Vega.
Ouais.
Le show complet, là, les 3 ans complets. Donc, écoute, je sais pas c'est quoi qui se passe.
Ben moi ce que ça me dit, c'est que clairement il y a des gens là-dedans qui ont décidé de faire la run jusqu'à WrestleMania puis après ça de faire comme ben regarde là, on n'est pas trop sûr de ce qui va de continuer à s'impliquer là-dedans. Tu sais honnêtement, je suis pas dans le secret des yeux à ce niveau-là, mais tu sais ma logique me porte à croire que c'est la situation actuelle parce que il y a personne qui parle. La WWE fait pas de commentaires non plus. On mentionne pas ces gens-là durant l'émission et on revoit le même monde. Là. Ouais. C'est toujours les mêmes personnes qui sont là. Donc, tu sais, clairement, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est le fait d'aller live que les gens ont pas aimé? Est-ce qu'à la place, là, si on continue, parce que là, la WWE a eu aussi la confirmation que les réseaux de télévision USA Network et Fox ne changerait pas le contrat. Là. S'il faisait pas des émissions live, il y aura pas de pénalité, il y aura pas rien.
Il pourrait tout pre-taper s'il veut.
Il pourrait tout faire des pre-tapes. Donc,
mais là, il a annoncé, par exemple.
Donc là, ça pourrait être aussi peut-être une occasion de convaincre les gens qui, visiblement, ont peut-être un peu plus de difficultés à dire, ben oui, je vais y aller à chaque semaine, de dire, ben viens faire une journée de taping, on est bon pour 2 mois, puis après ça, tu restes chez vous.
Mais t'sais. Là, ils ont annoncé qu'ils tapaient, ils feraient un live, puis ils tapaient une semaine. Ils ont annoncé qu'ils feraient, mettons, le lundi, live.
Oui.
Là, ils tapaient, puis qu'après ça, l'autre semaine,
Je comprends. Comme il faisait dans les débuts de Raw.
C'est ça.
Exactement comme il faisait dans les débuts de Raw. Il y avait un live, puis ensuite, c'était un pre-tape. Mais même à ça, ça demande quand même beaucoup de déplacements.
Non, c'est sûr, c'est sûr.
Ça demande de sortir de la maison régulièrement. Et on s'entend, là, c'est deux planètes en ce moment. Là. Les États-Unis et le Québec et le Canada au complet, c'est deux planètes, là. Jacksonville, la semaine dernière, ils ont réouvert les plages pis c'était bondé de monde. Mais on parlait de la Floride, pis je sais que la WWE a beaucoup été jugé ces derniers temps à cause de ça. La Floride également, mais la Géorgie s'en va dans le même sens, là. La Géorgie là, va permettre à AEW de faire des émissions de lutte, là, s'ils veulent. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas juste la Floride, c'est vraiment pas juste la WWE. C'est une mentalité, je vous le dis, là, une mentalité qui est complètement, complètement différent.
Donc, il va y avoir le Corporate Ladder Match. Hey, ça va être...
ça, là...
Ben, OK.
Explique-moi, je suis pas sûr de vraiment tout saisir.
Ils vont partir en bas, il faut qu'ils montent tous les étages, ils vont faire un film, comme ils ont fait avec Undertaker, AJ Styles, ou Bray Wyatt, puis John Cena. Ils vont nous donner un film de lutte, puis quelqu'un qui va aller chercher. Ils ont déjà tapé une partie, ou presque tout le match.
Mais je veux dire... OK.
Oui, mais ils ont été créatifs au moins.
Non, mais ils vont...
Puis au moins,
ils vont,
c'est tapé.
C'est la logique. Ils vont se battre sur des échafauds en plein milieu du building ou ils vont juste faire des shots au sol puis des shots sur du building?
Ils sont supposés partir d'en bas puis monter à travers les étages jusqu'en haut.
Ben oui, mais monter à travers les étages, c'est pas des Spider-Man, là? Je veux dire, je comprends pas. Ils vont se battre sur des échafauds à un moment donné, à force de monter. Ils monteront pas une grande échelle de 200 000
non,
pieds,
Pat,
Kevin.
Pat,
là.
Ils vont rentrer dans le building. Ils vont se battre dans l'ascenseur.
Building.
Ils vont se battre dans l'ascenseur, dans la cage d'escalier.
Hey, je suis vraiment niaiseux. Ben. Moi, dans ma tête, j'étais là. Voyons, ils monteront pas à l'extérieur. Ça fait aucun sens.
Mais je trouve que c'est une bonne idée. Parce que
c'est une bonne idée. On n'a jamais vu ça. C'est différent.
Puis après ça, on va pouvoir dire vous êtes une bande d'imbéciles ou non.
Ben, ils vont avoir essayé quelque chose. Fait que j'ai rien contre. Si ça ressemble à Randy Orton et Edge, ça va être plate. Si ça ressemble à Undertaker, AJ, John Cena, Bray Wyatt, ou un match qu'on va parler tantôt, les deux frères Jackson.
Ouais, mais on en parlera peut-être pas.
Pourquoi?
J'ai pas fini. Il fallait que j'arrête de l'écouter.
Ben non, mais il y en a un qui gagne à la fin.
Je
là.
Sais, mais.
Ben voyons, on n'en parlera pas. Okay, moi, on m'en parler. Okay, voyons.
Mais, parce que je veux pas que tu me dises tout. Là, parce qu'il fallait que j'arrête.
Tu me diras, t'es rendu où, puis on en jase.
OK, parfait.
Mais bref.
On va en pas jaser, je m'en fous.
Tu le dis depuis le début, la WWE se doit d'être créative. Et tant mieux s'ils ont trouvé un nouveau concept. Bon, tu vois, même moi, j'en reviens pas, j'avais pas catché, ça se passait à l'intérieur. Sais-tu pourquoi je pense que j'ai pensé ça?
Pourquoi?
Moi, quand j'étais à Stamford avec Bertrand Hébert, on n'a pas le droit de rentrer. Tu peux pas rentrer, là. Tu peux même pas rentrer dans le lobby. Tu sais, c'est pas comme une tour à bureau où au moins tu as le droit de rentrer là, dans le lobby, puis après ça, non. Il y avait la statue du d'André le Giant qui est dans le lobby. Nous, on voulait une photo de ça. Et il y a personne qui a jamais voulu nous laisser rentrer. Par contre, la fille à l'avant a été super gentille. Elle a pris ma caméra et elle a pris une photo.
Ah, c'est cool, ça.
Mais les frères du géant, un des frères du géant avec son fils, avec Boris, que t'as rencontré, Kevin, te parle?
Oui.
Pour vrai, là, le TDAH à Kevin vient de kicker in. J'y parle. J'ai nommé ton nom, man. Pis tu m'as jamais entendu.
Non, mais c'est parce que j'ai vu des donuts.
Fred paye sur play. Je te l'avais dit qu'on aurait un thème pour ton TDAH à un moment donné.
Je peux-tu le réécouter?
Oui.
TDAH, Kevin Raphaël.
Wow!
Alors, Alors, je sais que t'as jamais été diagnostiqué, mais clairement, Docteur Laprade a officialisé le diagnostic avec, avec Docteur Fred.
Très bon.
Donc, voilà. Donc, je te parlais donc. Ouais. Et je te disais que Boris, que t'as rencontré, le neveu du géant Ferry, avec son père, avait été à Stamford et il avait même pas laissé rentrer le frère du géant Ferry. Il laisse vraiment rentrer personne. Fait, j'imagine qu'inconsciemment dans ma tête, je me suis dit, ben, ça va se faire à l'extérieur. Il laisse rentrer personne.
Mais j'ai hâte de voir. Bon, ce match-là, les Jackson being the Elite 200. Pat, est-ce que, avant de parler du match, est-ce que t'es quelqu'un qui suivait being the Elite?
Non. Mais attends, j'ai vu quelque chose sur le pacing, puis vu qu'on parlait des Coopers, je vais en parler parce que je le connais personnellement et j'ai trouvé ça triste. Cassius Ohno a fait partie des Coopers.
Excuse-moi.
Il s'est fait congédier plus tard que les autres, s'est fait congédier cette semaine. Je connais Chris depuis des années, donc j'étais très triste de le voir partir. La dernière fois, par contre, quand il avait été remercié, il y avait tout tué sur le circuit indépendant. Donc, dès que le circuit indépendant va reprendre, je lui souhaite toute la chance au monde.
Esthétiquement parlant, c'est pas un WWE guy, mais ce gars-là peut lutter avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand.
Absolument.
Est-ce que je le vois AEW? Je sais pas. Est-ce que je le vois NWA Power? Man, moi, je verrais ce gars-là là. Est-ce que je le vois aller au Japon? Moi, comme Cassius Ohno contre Okada Pat, là, on le regarde, tu sais.
J'ai réalisé cette semaine que la directrice des opérations d'NWA pour NWA Power, c'est une fille qui était travaillait avant chez High Spots, que je connais super, super bien. Fait que peut-être qu'à un moment donné, on pourra bénéficier de ce contact-là, mon cher Kevin. Maureen.
Avoir des gars de NWA Power en entrevue, comme on va avoir Deonna Peruso après les nouvelles.
Ça se pourrait. Ça se pourrait. Bref, moi, je le verrai à AEW, par contre, qui est chez Sonon.
Je le verrai à AEW aussi. Mais parce que là, AEW commence à. Ils vont finir par avoir le problème de WWE. Là,
il va
avoir trop de monde.
Ben oui.
Fait que Cassius Ohno, tant qu'aller à AEW pour être bottom tier, en bas de Colt Cabana, va à New Japan tout péter.
Ah ouais.
Puis revient après.
Là-dessus, je suis d'accord. Being Daily.
Bon, moi.
Non, j'écoutais pas. J'en ai écouté des shows, mais j'écoutais pas ça sur une base régulière.
Moi, c'était. Je te dirais, c'est devenu comme ma religion d'écouter Being the Elite. Parce que, en tant que gars qui trippe sur faire des films, faire des séries, faire des vidéos, que les gars fassent
la lutte.
La lutte. Non, mais c'est vraiment le côté technique.
Okay.
Parce que les gars fassent ça sur leur téléphone cellulaire, qui font du montage sur iMovie, tu sais, ça m'impressionnait beaucoup, puis je trouvais que c'était cool d'encourager. Puis, ils m'entertainaient. Ils me divertissaient, oui, mais. Ce que je trouvais le plus impressionnant là-dedans, c'est que je me connectais le lundi, c'était pendant Raw, puis il y avait déjà des milliers et des milliers de personnes qui faisaient la même chose que moi. Quand All Elite Wrestling est arrivé, j'ai fait « OK, c'est vraiment comme Being the Elite, mais j'espère que ça sera pas ça, All Elite Wrestling. » Et finalement, c'est pas ça. Parce que un des premiers pay-per-view, là, l'intro, c'est Being the Elite x 1000. Même que les gars rentrent sur la toune de Being the Elite.
Ouais.
J'ai vu Being the Elite grandir avec le team, avec tout. Là, je fais juste parce que c'était leur 200e, c'était leur anniversaire.
Ouais.
Puis juste, vite, mes moments préférés de Being the Elite, Marty Scurll, quand il y avait le temps limite sur sa mort, dans le fond.
Ouais.
Hangman Page qui avait assassiné quelqu'un, les Bucks.
Being the Elite a beaucoup contribué.
Ça a révolutionné la lutte.
Au succès des Young Bucks, de Kenny Omega, ben aux États-Unis particulièrement. Cody a bénéficié de ça. All Elite Wrestling en doit beaucoup à Being the Elite. Ouais. Et, tu sais, je veux dire, les Young Bucks ont eu des comment t'avais ça, des Funko Pop?
Ils ont tout.
Ils étaient, c'est quoi le magasin aux États-Unis, là?
High Spot.
Non, pas High Spot. Un magasin de
t-shirts.
T-shirts pis de jouets, là.
Oh my God!
Je sais, là, le nom m'échappe, puis je veux pas revivre ce que j'ai vécu la semaine passée. mais il y avait Hot Toys. Ah, là, je me sens comme la semaine passée.
Non, pas Toys R Us.
Non, c'est pas Toys R Us. Merci, vous avez entendu Fred.
Non, ils l'ont pas entendu, c'est juste nous qui l'ont entendu.
Je me fais toujours avoir avec
mais
ça.
Mais en tout cas, c'est pas grave. Là.
Bref.
Un des plus gros magasins
exact,
aux
ça
États-Unis.
Ça va me revenir. Et il y avait leur t-shirt là, il y avait leur Funko Pop qui était vendu là. Donc, pour vrai, Being the Elite a beaucoup eu à voir avec le succès nord-américain de cette gang-là qui est à la base même de All Elite Wrestling. Je te laisse continuer.
Puis, donc, c'est ça. Quand le 200e épisode est arrivé, dès les premières secondes, Pat, je te l'ai envoyé tout de suite parce que j'ai dit la qualité, comment ils l'ont shoot.
Hot topic.
Hot topic, that's it. La qualité, comment ils ont shoot, comment ils ont joué ça, j'ai trouvé ça meilleur que le match AJ contre Undertaker. J'ai trouvé que le production value, là, pour des gars qui devaient pas avoir l'équipe WWE, ouais. Là, yo, ce pro.
Pour vrai, le match, c'est parce que je pense que ce qui aide aussi, Kev, c'est le match. Ils ont été très, très, très spectaculaires.
Ils ont été partout, là.
Ils ont été partout. Ils se battent pas loin de chez eux. Ouais. Il y a eu un Canadian Destroyer dans la piscine. Ouais. Ils se battaient dans le gazon. Ça a commencé sur un court de tennis.
C'est là qu'à AEW, à un moment donné, on les avait vus.
Ouais.
Que Matt ou l'autre, là.
Nick.
Nick s'était blessé, puis il fallait qu'il se remette en forme. Puis là, il disait, hey, je suis juste revenu à 70%. Nan, nan. Fait que moi, je vous dis.
Non, puis je veux dire, il était vocal durant le match. Son prochain à Edge puis à Orton, ils l'ont pas été. Il était très, très, très vocal. C'était différent du match Taker et Styles. Le match de lutte comme tel était de loin meilleur. Juste la lutte, je parle.
Non, mais c'est sûr, c'est
sûr. Mais au niveau de la valeur de la production
la
et tout ça, ben, c'est sûr que là, tu sais, c'était super bien fait, mais bon, c'est la WWE. A fait avec Taker et Styles, c'était vraiment quelque chose de solide. Fait, tu sais, ces deux matchs, j'ai de la misère à comparer, mais j'ai pas de misère avec à dire que le match était meilleur parce que bon, c'est deux athlètes, c'est deux frères qui se connaissent tellement bien, puis le match avait vraiment du sens. Et à un moment donné, ils font une petite cote. Tu t'es-tu rendu à la cote dans le match?
Non.
OK, bon, ben à un moment donné, ils font une cote où ils reviennent un peu plus. Je sais pas si je me souviens exactement ce qui est arrivé, mais c'était un peu plus futuriste, là. Okay. Ils sont sortis, puis à un moment donné, j'ai quand même oh non, dis-moi pas qu'ils vont aller vers quelque chose de
gauche, là.
Ouais, c'est ça. Et finalement, c'était juste, tu réalises que c'est juste qu'ils ont changé leur. Ils ont changé de place. Ils ont fini le match ailleurs. Et il y avait juste besoin d'un bridge pour pas que ça soit juste une coupure, là, tu sais, durant le court-métrage qu'il était en train de faire. Donc, c'était correct. Je l'ai accepté parce que j'ai compris pourquoi on l'a fait comme ça. Mais en bout de ligne, le match vaut vraiment, vraiment la peine d'être vu.
J'ai vraiment hâte de le finir.
C'est un super bon match.
Je voulais rendre hommage à Being the Elite. Ça l'a bercé mon pas ma jeunesse, mais lundi, quand Raw était pas bon, puis que je faisais, je vais mettre pause sur Raw, je vais écouter Being the Elite, je vais repartir Raw, donc kudos aux boys. Maintenant, un petit peu plus triste, décès jeudi après le pod, là, on aurait aimé s'en parler sur le pod la semaine dernière, mais décès de Howard Finkel. Avant que je te laisse aller, Pat, toi tu l'as rencontré et tout, il y a aucun meilleur que celui d'Howard Finkel.
Ah ben non.
C'était le premier employé de la WWF.
Absolument. En fait, Vince McMahon, je vais te laisser continuer, mais Vince McMahon Jr. l'a embauché le 1er avril 80, 2 ans avant qu'il achète la compagnie de son père. C'était le premier employé de Vince, le point.
Et moi, j'aimais quand, tu sais, vers la fin de sa carrière, quand on le ramenait pour les gros matchs. T'sais, tu savais que si Howard annonçait le match, que ça valait la peine que tu le regardes. Tu sais, quand je retourne dans le... Tu sais, j'en ai parlé là, combien de fois. Calgary Stampede, c'est pas pareil l'entrée des Hearts si c'est pas Howard qui le fait. C'est... Lui, là, il a été all out pour l'entrée des Hearts. Il a compris le setting. Il a compris que c'était des gods. Puis, non, je voulais rendre hommage à Monsieur Finkel parce que, c'est le meilleur annonceur de tous les temps.
Ah, au niveau de la lutte, il y a aucun doute là-dessus. C'est au niveau de la boxe, on parle souvent de Michael Buffer.
Ouais, mais lui, c'est notre Michael Buffer.
Ah oui, exactement. Il était là régulier de 77 au début des années 2000. Est-ce que tu savais, c'est lui qui a inventé l'expression, en fait, le nom du pay-per-view WrestleMania.
Pourquoi, je sais même pas.
Ouais, lui avait dit à Vince, écoute, il y a eu quelque chose aux États-Unis qui s'est appelé la Beatlemania. Pourquoi nous, on n'aurait pas notre WrestleMania?
Je savais même pas ça.
Et le reste, c'est de l'histoire ancienne. Tu sais, ça a commencé avec ça. Un autre rôle, tu sais, Howard Finkel avait sa job d'annonceur, mais sais-tu quel autre rôle qu'il avait? Il rapportait à Vince Senior. Parce qu'au début, il travaillait pour Vince, le père.
Ouais.
Et il rapportait ce qui se passait. Ça, on est là, à milieu, fin des années 70. Il rapportait ce qui se passait sur la IWA. La IWA, là, Kev, là, c'était un propriétaire, un gars qui est devenu propriétaire des White Sox de Chicago, Eddie Einhorn, qui a été le tout premier à vouloir rendre la lutte à un niveau national. Avant même Vince Junior, mais ça n'a pas marché son affaire, mais Vince Senior le voyait comme une menace et il avait demandé à Finkel de lui rapporter tout ce qui se passait sur cette compagnie-là. Le surnom de Fink, là, tout le monde pense que c'est parce qu'il s'appelait Finkel. Ouais. Pas du tout. Parce que Fink, en anglais, ça veut dire rapporter quelque chose aux autorités.
Ah,
c'est de là qu'il a eu le surnom de Fink. Puis c'est un rôle qui a continué par la suite parce que ça ce bout-là, je le savais. Mais c'est un de ses rôles plus tard, c'était de donner toute l'information au gars là, qui chapeautait la WWF. Pat Patterson, Vince McMahon, Jerry Briscoe, ces gars-là. Donc, lui a été un des premiers à s'abonner, par exemple, au newsletter de Dave Meltzer.
Ah, oh, ouais!
Parce que son rôle, c'était de donner toute l'information sur... Puis quand l'Internet est arrivé...
C'était le premier Mark.
ben, non.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu comprends ce que... C'était le premier insider scoop guy.
Ben oui, parce que son rôle, c'était de donner l'information autant sur ce qui se disait sur la WWF que sur les autres promotions. Puis évidemment, quand l'Internet est arrivé, ben il a continué. Même au début de l'Internet, c'était encore lui qui donnait cette information-là. Il était partout, il checkait tout ce qui se disait, tout ce qui se passait sur les différentes plateformes web. Et puis, tu sais, son visage, sa voix connue de tous, bien évidemment, il a été intronisé au Panthéon de la WWE en 2009 et à celui du Wrestling Observer Newsletter en 2018. Puis c'est lui, justement, parlant de Tom Lerenommé, qui introduisait dans les dernières années les nouveaux membres au Panthéon de la WWE à WrestleMania. Là, c'est lui qui sortait puis qui les présentait. Donc malheureusement il y avait eu un AVC dans la dernière année. Il s'en est jamais vraiment remis. Moi j'avais vu des photos de lui il y a peut-être un an,
il était magasin,
et en haut et tu le reconnais presque plus. Il avait une barbe, il était assis dans une chaise roulante. Donc mort jeune malheureusement à l'âge de 69 ans. J'ai eu la chance de le rencontrer moi à quelques reprises, et une de ses plus belles qualités, là, Howard Finkel se souvenait de ton prénom après la première fois que tu le rencontrais. C'était incroyable. Ça, je suis pas le seul à le dire. Là. Je l'ai rencontré une fois. La fois d'après, il se rappelait que je m'appelais Patrick.
C'est fou.
C'est complètement fou. Super gentil. C'est un des premiers, quand j'ai commencé à faire des conventions de lutte à Vegas, j'avais été à une à Toronto, c'était un des premiers que je me suis vraiment assis avec et parlé, tu sais, puis jaser. Il était super, super gentil. Très, très, très accessible. Et ben une grosse perte pour le monde de la lutte professionnelle.
Interlude musical. Mes trois étoiles de la semaine. Sur le papier, c'est écrit Jake the Snake, mais c'est Pat Laprade, ma troisième étoile, parce que Pat a pété le documentaire, mais je voulais pas l'écrire pour pas qu'il me fasse chier. Donc, Pat Laprade, ma troisième étoile de la semaine. Numéro...
C'est vrai, je demandais à Fred de le mettre en loop, puis à chaque fois, on va répéter le fait que j'ai une des étoiles.
By the way, Fred, il a fait un montage lors du dernier podcast. T'as arrangé quelque chose au début, puis je l'ai pas... Je sais pas texté, mais j'ai dit je vais le dire sur le pod. Fred, là, il fait en plus de nous écouter parler de lutte, il fait de la post-prod, donc shout-out à notre boy Fred.
Ben, le montage qu'il a fait, c'est le montage qu'on a partagé.
Non, mais il y en a fait un autre pendant le pod. Lavez-vous les mains.
Ah oui, ok.
Ouais, vraiment okay. Cool. Numéro 2, Dr. Brick Baker.
Parlant de lavez-vous les mains, on va parler d'un docteur.
Vraiment, son entrevue avec Chris Jericho, magique.
Ah, j'ai pas encore écouté.
All out.
Ouais.
Okay. Elle nous parle de quand elle était à NXT, c'est comment, quand elle va voir son chum. Ouais. Elle nous parle de son match avec Hikaru Shida.
Qu'elle a parlé de la fois qu'on l'a montré à NXT?
Oui, puis okay. Elle a été in-depth là-dedans, puis je vous. Elle a écouté l'entrevue, mais elle dit ils ont pas fait exprès. Mais allez écouter l'entrevue, là. C'est vraiment
Mais dis-nous les là, pareil, là.
Non, mais OK, ben je vais l'expliquer le plus que je peux. Là. Elle explique que donc elle était assise à un endroit pour écouter le match.
Oui.
Puis pendant le match, ils l'ont bougé.
OK.
Parce qu'ils ont dit va à cette place-là, on te verra pas aux caméras.
Wow!
Ouais, mais là, elle a dit, bon, ben, OK, ben, ça doit être ça. Fait qu'ils l'ont bougé. Par la suite, elle sait pas qu'elle est sur la caméra. Là.
Ben non,
elle
s'en
va, Gorilla. Triple H s'en va la voir, puis dit, je voudrais vraiment m'excuser parce que là, on t'a vu, j'espère que ça dérangera pas tes boss. On a vraiment pas fait exprès. Notre produce guy, il savait pas t'étais qui. quand Triple H est assis à côté du produce guy pour produce le show, là.
Wow.
Et par la suite, et les gens qui auraient dit à Adam Cole que c'était prévu, et...
Ouais, bon, faut comprendre aussi que les lutteurs sont très...
conspirationnistes.
Oui, oui, hein? Exactement.
Mais, en tout cas, ils ont dit, j'ai entendu dire que...
Mais moi, ce qui me gosse là-dedans, c'est qu'il ait changé de place.
Exactement.
Ça, c'est le bout. Si ça avait pas été de ça, j'aurais...
Il l'aurait pas vu.
Non, mais j'aurais cru l'histoire un peu plus. Mais
elle dit, elle croit pas vraiment que Triple H, que Jericho, il dit point blank, là. Ouais. Elle dit, that's bullshit. T'sais, il est... Fait qu'elle écoutait cette entrevue-là.
Okay, c'est intéressant.
Et, elle dit aussi, il y a plein de lutteurs de WWE qu'elle peut pas nommer, que c'est ses patients comme dentiste, là.
Ben oui.
Elle nous explique, elle, c'est...
Ben oui, mais je veux dire, bon, tu sais, moi, je la connais personnellement. Ouais. Puis être amie avec des filles à NXT, là, je veux dire, c'est des filles qui ont grandi ensemble sur le circuit indépendant, puis qui habitent toutes dans la région de Orlando, ish, là, tu sais, donc c'est tout à fait normal.
Puis c'est ça, je trouvais ça cool qu'elle l'explique comme ça. Puis,
être à Orlando, j'irais me faire arranger les dents.
C'est exactement ça qu'elle dit, parce que Britt Baker, c'est son vrai nom.
Oui.
Donc, sa compagnie de dentiste ou son building de dentiste écrit MD Britt Baker.
Ben oui.
Les fans de lutte y vont.
Ben, c'est sûr.
Fait que les fans de lutte y rentrent, mais elle dit sont super respectueux, puis souvent sont gênés, ils shake en la voyant parce qu'ils vont comme, OK, c'est vraiment vrai, là, t'es vraiment dentiste.
Ben, dans ce temps-là, tu lui donnes t'es endors sur la chaise, puis ça finit là.
Hey, puis, OK, ben, je vais arrêter de parler de cette entrevue-là, mais.
Tu dois te dire ça.
L'autre affaire que je trouvais vraiment cool dans l'entrevue, c'est qu'elle explique qu'elle, à part le mardi, pour aller faire AEW. Elle pourrait partir le mercredi, mais elle préfère partir le mardi pour pas qu'il y ait un problème de vol. Elle fait le show le mercredi et soit elle pogne un red eye le mercredi soir pour retourner lundi travailler. Okay. Elle s'en va directement à la job. Elle va même pas chez eux. Elle va directement à la job ou le jeudi matin après un vol pour aller directement travailler. Donc, beaucoup, beaucoup de respect pour Dr. Britt Baker. Il parle aussi de son heel turn avec Tony Schiavone. Donc, allez écouter cette entrevue-là. Et le travail qu'elle a fait à AEW cette semaine était magnifique.
Une fille en plus, super, super sweet.
Ah,
super gentille. Donc, tu sais.
Il faut l'avoir sur le podcast.
Tu sais, il y a des. Écoute, ça pourrait peut-être ça faire.
Ouais. Moi, j'aimerais ça dire à Britt Baker que je l'aime.
Ben, parfait. Parfait. Je me mets là-dessus, mon chat.
Et mon étoile numéro un.
Ouais.
Mesdames et messieurs.
Est-ce que c'est ta blonde qui a influencé
non,
ton
guy,
choix?
Non, guy. Pat, ça fait longtemps que j'ai pas écouté la lutte debout dans mon salon. OK? Comme, en fait, je vais recommencer. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté WWE debout dans mon salon. Parce que là, je me dis, ah, Sonya est whack, man. Elle va s'excuser à Mandy, puis on va parler pour SmackDown après. Et là, quand elle s'est pas excusée, j'ai dit, girl, what? Je me suis levé debout. J'avais les bras croisés devant ma télévision, puis j'étais comme, elle est en train d'avoir son Stone Cold Steve Austin moment. Ça, là, c'est le moment qui va définir la carrière de Sonya Deville. Elle avait pas juste une petite promo, là. Elle avait, je pense, 8 pages de shit à dire à Mandy Rose dans son personnage. Beaucoup de respect pour Sonya Deville, mon étoile numéro 1. Puis ce feud-là reste encore le meilleur feud à WWE. Comme, ça fait combien de mois que je parle de Otis, Mandy, Sonya puis Dolph? Donc, mes étoiles la semaine. On a la chance d'accueillir quelqu'un. Écoute, moi, je lui ai manqué de respect comme j'ai fait avec Kevin Owens lorsqu'on a fait le show de lutte. J'ai mal prononcé son nom, mais là, j'ai fait exprès pour me pratiquer, pour bien dire son nom. Shout out à ma girl, Deanna Purrazzo. Is it good?
Yeah.
Cause I practiced like for 3 days.
Kevin has really a big problem with pronunciations, so it was really a struggle for him to pronounce your name. So welcome to the show.
Thank you guys for having me.
How you doing? That's the first question we need to ask you, because with the craziness of last week, how you doing?
Yeah, I'm okay. So many people have asked me that, like, are you sure you're okay? But really, like, I'm okay. I'm happy. I'm healthy. And it sucks to be fired from your job, but ultimately, like, I'm happy. And it was like a mutual decision ultimately. So I'm good.
Yeah, cause I was reading the first tweet you posted last week after it happened. And I was kind of perplexed. And I was like, is she like, happy, or is it like you just said, a mutual decision? So I was like, maybe, you know, I wasn't sure what was the what was that thing. So I mean, is it were you? I mean, can you tell us about the process? And you know, is it something that you saw coming? Did you ask for a release before? You know, just tell us about that whole process.
Sure. So I didn't know that it was coming. And last Wednesday, we have like a company-wide app that Vince McMahon had put a video on for us all to watch. And it talks about people being furloughed and people being fired and pay cuts. So it kind of all happened fast. No one really expected it. And then as soon as we all watched the video, we clicked over to Twitter and it was name after name being released. But I kind of just didn't know, but I had a gut feeling, like, I'm going to get a call today. And probably for the last 6 months, I've talked to so many people in the office at NXT about not being happy, not being utilized properly, wanting to be booked more and do more. And I just had a lot of pushback from it. And, you know, speaking up for myself was looked upon negatively. And it was about a month ago that I had a conversation with Canyon Seaman, and I said, if I'm not going to get ahead of this and I can't change people's minds about me, then I don't want to be here anymore. So when he called me last Wednesday, it was kind of like he had said to me on the phone, you know, your name was on the list, but I think this is something you'll be happy about and you want it. And I said, 100%, absolutely. So with that said, as unexpected as it was, like, I kind of just in my heart knew that would happen. And, you know, I'm looking forward to, like, being back in the indies and actually wrestling the way I want to wrestle.
Okay. Is there, like, places you already have eyes on?
Of course.
I told you, I'm trying to be nice, but I got to ask you those questions.
No, that's okay. Of course, there's AEW now, and there's Impact doing really exciting things. Ring of Honor is, you know, before this craziness in the world happened, had a women's tournament for a new champion. So, of course, all of those places are places, you know, I've been before. AEW's new, and I haven't been there yet. So, those places. But I loved my time with Rise and with Shimmer, beyond wrestling and WWR on the East Coast. So, those are all places that have reached out to me, independent, like the independents. And tentatively, I have dates booked. So I'm going to be busy once the world gets back to normal.
Okay, so now, I mean, you spent 2 years in the WWE, or almost 2 years in the WWE. The landscape of women's wrestling changed a lot in 2 years. To be thrown into that right now, like, do you... bust up your rates? Do you want main event matches? I mean, you're one of the big names that's going to be available for the indies.
Right. So I haven't been an independent wrestler in 2 years, so I think it's going to be like a feeling out process, and I know how much I charged prior to WWE, so I definitely think that I could ask for a little bit more, but you know, I don't know. It's going to kind of depend on what other girls ask and kind of feeling out how much I'm worth again. I think that has always been like the thing with indie women, is just it's a feel out process and it's a case by case process.
I wish that Dave Prezak is not listening to this. Dave Prezak, for those who don't know, is the promoter for Shimmer Wrestling. I mean, you're only 25 years old, Deonna. I mean, you said it. You know, you worked before WWE. You did work for Ring of Honor. You did work for Impact Wrestling. So I mean, you know, you're still very young. Going back to the independents and going back to perhaps other promotions that will let you do indies as well. I mean, when you are young, you know, everyone's who loves wrestling want to be in WWE. One day, it was probably a goal from you, you know, for you. Now that you've done it and going back to the indies, is your mindset to one day go back to WWE, pretty much like, I don't know, someone like Drew McIntyre did, or you're going to be okay doing other promotion, and now that AEW is there as well, it gives you also an option. What's your mindset, you know, with the landscape of professional wrestling right now?
I didn't get a proper shot in NXT, mm-hmm. and I wasn't used regularly on NXT TV. I wasn't in a championship title picture. Like, I feel like my opportunities there were squandered really fast. And I, to be like honest about it, wasn't a chosen one. You know, I had worked for WWE since 2014 in so many roles.
Yeah, you did one of the Rosebuds. You did one of the Rosebuds, I think, and you were shown on NXT even before signing. Yeah,
TV more as extra talent mm-hmm. without signing a contract than I was when I was under contract.
Okay,
so that's like crazy. All of these reasons were reasons I was unhappy, and I was vocal about it. And I knew what I was worth. I knew what I could do, and I thought, coming in, you know, July of 2018, like, I had proved myself. I had proved I was ready to be a superstar. And it ended up being that I was hired to keep me from AEW and keep me from doing All In. And I continued to be enhancement talent for 2 years. So I really would like to now focus on the indies and getting back to where I was and getting back to the in-ring competitor that I was prior to NXT. And more than hoping I go back one day, I just want to kind of say, like, screw you guys. That's how I feel right now. I feel like I want to prove them wrong. And if I earn an opportunity again, then I'm not going to sit on the sidelines like I did for 2 years.
Man, I feel you on this one. Now, I need to ask you the questions. You know me. We haven't known each other for more than 10 minutes, but I got to ask you the questions. We often hear, like, artists, and I do comedy shows, and I always say to my opponents, actually, it's like wrestling. You got to put money away because you don't know when it's going to end. When you get that NXT money, is it enough to put away? Because when you go to NXT, you got to change your entire life. You got to live in Orlando, et cetera, et cetera. So tell me, with the NXT salary, is it enough to put away?
I definitely think if you budget right and you live within what your means are, you absolutely can save. Luckily, in the last, you know, 4 months, I did a lot of Raw. I did a lot of traveling with them. I did a lot of things on NXT. So you definitely get pay increases and you get raises throughout your time in NXT. So I've been lucky to save a big chunk of money. But the pay scale is case by case. So some people come in with a name and get paid way more than the women that come in. And it's just kind of, you know, that's the nature of the world, isn't it? But
I've
been lucky enough to...
Do you believe that you can actually do more on the independent scene than what you were doing on NXT?
If I worked the way I worked prior to NXT, absolutely.
Oh, wow. Okay.
Wow, that's crazy.
I could probably be even to what my salary was and what I made at the end of the year on the indies, including merch and things like that.
Yeah, yeah.
Yeah.
The only difference is that you'll be forced to travel, you know, and you won't be staying only in Florida or in Orlando. That's the only difference. But wow, that's something.
I heard something you said. You said my opportunities were squandered. Why? How?
I think, like I said, I know my worth, and I know what I did before here. I know the opportunities that I gave up to go to NXT, and I didn't let them forget that. I didn't take no for an answer. I asked too many questions, probably, and I was upset a lot of the times. NXT does these road loops, and I hadn't been on one since I got to NXT, and I kept asking, why? Why am I not being booked on these road loops? Why am I not being moved to the next class? And no one could really give me an answer other than that I was difficult. So I think because I have a mouth and I ask questions and I stand up for myself, They don't like that.
But
it's very much a culture of, like, be grateful for what you're given and don't ask for more. And I don't see life that way.
Just hold on, Diona. We're going to have just to take a short break just to translate or, you know, summarize what we just talked about. Kevin, t'as pris des notes ici.
Donc, j'ai pris des notes, plusieurs. Écoute, c'est des grosses citations de Diona. Écoute, elle parle, c'est une décision mutuelle. Ils ont eu ça sur un appel vidéo. Puis là, elle savait qu'elle allait recevoir l'appel. Elle était pas super contente. Elle voulait en faire plus. Elle trouve que ses opportunités ont été écrasées.
C'est ça, ça faisait 6 mois qu'elle posait des questions, qu'elle voulait avoir une meilleure position dans l'échiquier. Okay. Elle avait parlé beaucoup avec Canyon, qui est la personne en charge, et on n'arrivait pas à lui donner des réponses, là.
Puis, dans le fond, elle a pas de stress d'aller sur les indies. Elle a même mentionné qu'elle pense peut-être faire plus d'argent sur les indies qu'elle faisait à NXT. Puis, d'aller dans les indies, dans la nouvelle ère de lutte avec la lutte féminine, ça va être un feeling out process, qu'elle dit. T'sais, elle va essayer de vivre un peu, aller sur les talons, puis une autre chose
Excuse-moi, elle disait également que, dans le fond, pour l'instant, sa mentalité, c'est pas de revenir à court terme à la WWE, le plus la mentalité de dire, manger de la chenoute, je vais faire mon nom ailleurs, puis je vais m'arranger à 6 caveaux, et c'est peut-être un peu ça qui lui a nuit à NXT, parce que justement, elle posait beaucoup de questions, et elle savait ce qu'elle valait, et il aimait pas ça, puis il trouvait que c'était un comportement négatif à avoir.
We're back. Is it okay if I ask you other questions? Do you like my question or Pat's questions better?
don't answer
I'll
that.
I'll answer anything.
I need to tell the world, like when you were at NXT, I like your work. I DM'd you on Instagram. You did not answer. So that's why I'm going in on you right now. I'm like, she left me hanging. But,
oh, no. I'm sorry.
Oh, you left me on scene. I was like, what did I do to her? She doesn't have 100 followers yet? 100,000 followers yet?
See, I didn't have that problem because we actually did commentary on your very, what ended up being
second,
your very very last match with the company on April 6th against Nia Jax on Raw. Yeah. And we do French commentary for Raw as well. So I texted her and she did answer.
Yeah. He said, oh, I know that girl. I'm in Texas. You answered in a minute. I was like, she left me on scene and she answered this guy. But I need to know. Okay, so you got fired. You go back. When everybody gets fired like that, are you surprised? Is there a guy that or a girl that you were like, man, this guy got fired too?
What was the feeling? Yeah, what was the feeling, you know, when, because it was, you know, so many people at the same time. What was the feeling, you know, inside?
To be honest, and I said this in quite a few interviews, that no one deserves to lose their job, especially right now when new employment is not possible. But I feel like if WWE had let people go over the last 2 years in a typical fashion, like, I feel like they hoarded talent quite a bit over the last few years and paid people crazy amounts of money to sit home. And not that those people deserve to lose their job, but I feel like WWE could have avoided what they did last week had they had regulations put in place to have people released regularly.
But who were you surprised to see let go? Like me, when I saw Mike Chioda, I said, "Okay, it's real."
Yeah, I mean, he's one of them because he's been employed for, you know, 20 years, 25 years. So that's crazy. I'm trying to think who else. I think Maria was crazy.
Yeah, because she just has a baby.
Right, and she was hired years and years ago. They just got back, and I love her. So I think, like, she could have done so much more in the role that she was given.
Maria and Mike were two people who were very vocal about how unhappy they were with WWE. So you know, do you feel like the people that were actually let go that most of them were people maybe like in your situation where they were not, you know, all happy about how they were used and maybe being vocal about it, either, you know, publicly or privately? Do you feel like a lot of those firing were people that were maybe, you know, vocal like you were?
I think that definitely could be the case. I just think also too, like, you know, someone like Heath Slater,
mm-hmm.
When's the last time he was on TV? But he had a big contract.
Yeah.
So if their goal really genuinely was to cut talent and get as much money saved as they could in talent contracts, like, those people make sense. I was super surprised about Carl and Luke Gallows because mm-hmm. they just main evented night two of WrestleMania.
Yeah, right.
So I don't necessarily know that there's, like, any rhyme or reason other than just cutbacks themselves, but there's a lot of people that it was just like, wow, shit, this is real.
Okay, so you wrestled in the environment with no fans. You wrestled Nia Jax. You survived. How was it? I said it. How was it to be in a space with no fans?
You know, you said you survived, and it's funny because I have saw that so much. But Nia genuinely is, like, one of the sweetest people, and she's always taking care of me. And it's funny that ended up being my last match in WWE because she was my first match in NXT.
Oh, yeah.
So it's kind of crazy that came full circle like that. But I also think that just, like, independent wrestlers are, that's their environment. We thrive with no people. Like, how many times have I done that where I've wrestled in front of three people? Which is probably more embarrassing than no people.
Okay, but just to go back on something you said, because I felt like you were defending Nia, because she's getting a lot of pushback, and she's clearly your friend. When you read social media or the hell that is Twitter, people are hating on her because they're saying she's not safe. You faced her. She's your friend. Can she get better? Is it a lie? Tell me something.
All I can talk about is from my own personal experience.
Yeah.
And I've been in the ring with her, I think this was 3 or 4 times now, and I've never walked away hurt. So I can't speak for anyone else and their experiences. I just know that she's always taken care of me.
Okay.
Fair enough.
I need to ask you. You know, I need to ask you.
Do you feel, Diana, that it's a bad timing right now to find yourself unemployed with everything that's going on, with no really independent scene, right now at this moment? Do you feel like it's a bad timing, or it's just going to give you time to relax relax on your body and make sure that, you know, your body is 100% when the independent scene will come back to life?
Yeah, I definitely think it's good, and quarantine has been good in general for all of our bodies. I know, like, I have just, like, some nagging things, and I have, you know, mm-hmm. neck problems and all that, and I feel great. Like, I feel like I felt years ago. So just quarantine in general has been really good for my body, but it's scary. It's scary to be let go during a pandemic because, like I said earlier, you can't just go get a job tomorrow. Indie wrestling doesn't start on Friday. And that was, like, the scariest thing, having to talk to my family and tell them what happened. And my dad is like, well, what are you going to do? And it's like, well, there's nothing I can do. And luckily, WWE gives severance packages. So main roster gets 90 days, NXT gets 30. So I will be paid through the end of May. So that helps. But it's just scary because at the end of those 30 days, like, is indie wrestling going to be back? Am I going to have bookings? I don't know. So it's like a day-by-day kind of feel-it-out process, but I definitely know that once indie wrestling does start back up, my body feels great and I'm ready to go.
Let me ask you this then, because you're saying that on NXT you guys get 30 days paid, so that's that, you know, what we usually call the 30 day or 90 day non-compete, and WWE from what we understand are said that they could bring people back during that period of time since they were getting paid, and you know the name of Sarah Logan and Drake Maverick has been, you know, have been mentioned regarding this. So what if WWE calls you before the end of May to do a match on NXT? Would you actually tell them, well, screw you guys?
Definitely how I feel right now is there's no reason. If I'm going to be brought back to NXT, it's to lose. And I've lost for the last 2 years, so it's not to my benefit. And what's funny enough is I was asked to wrestle. So we were supposed to have tapings on a Sunday a couple weeks ago, and they were supposed to film 3 weeks of TV. And it ended up being canceled so they could do live TV last Wednesday. But what I was meant to be doing was not to my benefit. And it was to lose to someone I've lost to clean a ton of times, and it was just like, why? What is the point anymore? You're just burying me, and I'm done with it. So unless they called me to do something for me, there would be no point.
Okay, now, look, I'm a good guy. I don't want to finish the interview on this.
I don't know about that.
Yeah, you know. You left me on scene, you know. Okay, so I don't want to end this interview like that. I want to have fun to finish the interview. So I'm going to hit you with some rapid fire so we'll know a little bit more about you. And after that, we'll tell where people can support you, where people can buy your shirt or whatever it is that can bring income to you. So we're doing the rapid fire and then we're doing the plug. You ready?
Okay. Yes, sir.
Favorite TV show right now?
Oh, All-American.
All-American was there? I don't know. Okay. All right.
It's on Netflix. And it's about, like, high school football.
Okay. Favorite band that you're playing on repeat right now?
Ooh, I don't really know. Puddle of Mud was on in the car when I got home.
Favorite match you've had in NXT?
Me and Chelsea versus Santana and Xia Li was a dark match before NXT, and that is the only time the NXT universe got to see BXT.
Match that you wished you had at NXT?
Me versus Kaylee Ray.
And last question, who you like better, Pat LaPrade or KR Kevin Raphael?
You better answer this one right.
Hey, we be Pat.
There you go. All right. There you go.
Hey, thank you so much for doing this interview. You killed it. And whenever you need anything, you let us know. Where can we find your stuff? Where can we send money to my girl, or not my girl yet, Deanna?
My girl. Yeah. My girl, Deanna.
So I have t-shirts on Pro Wrestling Tees. My shop is Deanna Prazo. I have a Big Cartel store. DeannaPerrazzo.BigCartel.com. And there's 8x10 trading cards, all that kind of stuff up there. And otherwise, you can just follow me on Twitter at DeannaPerrazzo.
Or don't on Instagram. Don't send her messages. She ain't answering. Hey, thank you so much.
Thank you so very much, Dee. And good luck with everything else. And stay safe down there in Orlando.
Yeah, you guys stay safe too. I hope to see you guys soon.
Okay, thank you.
Thank you guys.
Donc,
écoute, Deanna Purrazzo, quelle entrevue. Puis là, dans la dernière partie...
Elle est honnête.
Ah oui, elle est très, très, très honnête. Parce que, bon, elle nous a parlé, entre autres, que à NXT, tu sais, habituellement, sur le main roster, WWE, ils ont une clause qui leur permet pas d'aller lutter ailleurs pendant 90 jours. À NXT, c'est 30 jours. On lui a demandé, ben présentement, là, il y a beaucoup de rumeurs à l'effet que la WWE ramènerait certaines personnes durant la période de 90 jours, comme Sarah Logan, Drake Maverick, et que vu qu'ils les payent déjà, ben ils veulent les ramener ou ils peuvent les ramener. Puis on lui a demandé, ben est-ce que toi tu y retournerais? Ben elle dit, ben il y a pas de point à ça parce qu'ils vont me ramener pourquoi? Pour perdre. Puis ça m'avantagera pas aucunement d'y retourner pour perdre. Pour vrai, Diana, t'as-tu pris d'autres notes, Kevin?
Ouais, j'ai pris d'autres notes. Sa plus grosse surprise, c'était Maria, que on sait Maria vient d'avoir un enfant. J'ai été dans le vers Nia Jax.
Ouais.
Parce que c'est un sujet très chaud en ce moment, surtout avec ce qui s'est passé avec Kairi Sane. Puis elle a dit, non, moi, Nia Jax, elle a pris soin de moi depuis le début. C'était mon premier match et mon dernier match. Elle m'a jamais blessé.
Je pense que le problème de Nia Jax, c'était pas toujours constante. Fait que c'est sûr que si toi, t'as jamais blessé, ben tu vas avoir une bonne opinion. C'est
ça. Mais faut quand même demander.
Absolument.
Puis, la façon qu'elle a répondu, c'était, je suis conscient de ce qui se passe, mais moi, personnellement, par la suite, elle a dit que ça fait peur aller dans les Indies en ce moment, mais elle va s'en sortir. Puis, dans le fond, tu l'as parlé du si la WWE t'appelle. Finalement, je voulais light up le mood un peu.
Ben oui,
parce que
ben
je
oui.
sens qu'elle a été vraiment, elle s'est vraiment vidé le cœur.
Absolument.
Tu sais, après la trouvée, elle nous l'a dit. Tu sais, c'est la première fois qu'un podcast de lutte lui posait des questions de lutte.
Ouais.
Puis, écoute, félicitations à nous deux.
Ben oui, puis peut-être un nouveau show sur Netflix que tu vas pouvoir écouter. All American,
tu connais ça, toi?
Ben non, mais c'est du football universitaire. C'est fait pour toi, ça.
Ça doit probablement être shit. OK.
Le gars, il critique déjà les choix de notre entrevue.
AEW baisse de 1% des codes d'écoute, 683 000. 1%,
je te le dis depuis le début.
Non, OK, mais laisse-moi tranquille, là. Puis 1%, c'est rien, là.
Non, je le sais, mais ils faisaient du 900 000 il y a pas si longtemps.
Je sais, mais ils sont quand même réguliers depuis la pandémie. Depuis la pandémie, c'est à peu près autour de ça que ça se joue. Moxley Hager, un match qui a duré 100 ans.
Par contre, j'ai aimé qu'on amène, tu sais, on a voulu rendre le match spécial. Ça, j'ai aimé ça. On a amené plein de personnes, autant du côté de la lutte que du côté du MMA. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on sait que Jake Hager, après la WWE, s'est enlevé dans les arts martiaux mix. Donc, on a eu Mike Goldberg qui a longtemps annoncé le UFC qui est maintenant à Bellator.
John McCarthy qui, sur son podcast, déteste la lutte. Et là, il est allé faire une intervention dans un show de lutte.
On a eu Ariel Helwani. Tu sais d'où vient Ariel Helwani?
Il vient de Montréal.
Ben oui, il vient de Montréal, Ariel Helwani.
Nous aussi, il faudrait l'avoir sur le pod.
Qui est un des plus grands journalistes en termes d'arts martiaux mix au monde. Donc, c'est le fun de voir les gens puis arriver puis donner leur point de vue, qui va gagner, qui va perdre. Je trouve que ça rend toujours un match un peu plus spécial. Et puis, ben oui, le match a duré tellement longtemps.
Tu as aimé le match? Moi, j'ai trouvé ça trop long.
Ben, c'était.
Ils m'ont perdu. C'était un bon match, mais ils m'ont perdu.
À un moment donné, ça a été trop long. Par contre, ce qui était intéressant d'AEW, c'est, tu sais, c'est pas une salle complètement, dans ce cas-là, c'était une salle vide.
Ouais.
Mais tu vois, ça, j'ai trouvé ça spécial. J'ai trouvé ça spécial qu'on appelle ça un empty arena match quand on sait très bien qu'en ce moment, ben, il y en a pas de spectateurs.
Mais non, mais des fois, il y a les lutteurs sur les abords du ring.
Je comprends. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'a manqué dans ce match-là. Moi, ce que j'aime d'AEW, c'est justement le fait qu'il y a des fans, pas des fans, mais des lutteurs qui sont mis dans la foule parce que juste le fait d'avoir un petit son de background, ça fait une différence. Puis là, on ne l'avait pas dans ce match-là. Fait que quand c'est un match qui est comme ça, sans son en plus, je trouve que ça fait mal au match.
Combat Lance Archer, Cole Cabana, un bon match. Et j'aurais aimé ça que Lance Archer passe à travers Cole Cabana.
Ben, il a passé à travers le gars qui était au bord de la barricade.
Mais Lance, c'est la meilleure entrée de la lutte. Excuse-moi.
Puis le pire,
là,
c'est que tu le vois pas arriver. Puis bam!
Tu comprends? Mais il faisait ça à New Japan. Je suis tellement content. Ouais. L'amener.
Ouais.
Brady Bunch de Inner Circle.
Mais ça, c'était drôle.
J'ai ri tout le long.
Oh, ouais, c'était drôle.
L'affaire, la cote, là, que Jericho, il met du jus, puis là, tu vois un gros plat sur le jus, puis que là, ça revient au plan large,
ben
mais
oui.
Qu'il n'y a pas de jus. Ça, c'est parfait. La promo de Bill Baker, j'en ai parlé. Puis les matchs pour ce soir, donc Cody face à Sean Spears dans le TNT Championship Tournament. Hikaru Shida face à Britt Baker. Lance Archer face à, on sait pas, puis Tony Schiavone et Jericho seront les commentateurs. Non, c'est pas les bons matchs.
J'allais dire, de quoi tu parles, Hikaru Shida?
Ouais, c'est...
Tu vois, là... Ça,
c'était les matchs d'il y a deux semaines.
Ça, là, c'est ce qui arrive quand j'ai pas le temps de passer à travers ton pacing.
T'as passé à travers, tu m'as envoyé une version 2.
Oui, mais j'ai pas eu grand temps.
Hey, excuse-moi.
Come
là.
On!
Ah.
Excuse-moi, ça arrive, là.
OK, hey, NXT. 692
000, donc 1000 de moins que la semaine dernière, donc c'est rien.
Tu vois, c'est pour ça que Diana Perrazzo répond pas à tes DM.
Yo, I'm a left on the scene big time. NXT,
NXT, une semaine plus tard, là, je veux le mentionner parce qu'il y a bien des gens qui nous posaient la question. Je sais pas si t'as remarqué, toi, comment t'écoutes NXT d'habitude?
Moi, j'écoute NXT mardi ou mercredi matin.
T'écoutes sur
celui de la semaine dernière, juste pour le podcast. Non, non, mais mercredi, j'ai écouté.
Ah oui, OK, je comprends.
Aujourd'hui, j'ai écouté celui de mercredi dernier.
Bon, ben, il y a un problème en ce moment, c'est que les gens sont plus capables ici au Canada de l'écouter le jeudi.
Ah, pour vrai?
Oui, on a l'épisode de la semaine d'avant.
Ah, yeah, je savais pas ça.
Parce qu'il y a eu un gros changement, puis c'est pas juste au Canada, il y a eu un changement dans certains pays.
Ils peuvent l'écouter sur Sportsnet
où,
aussi.
Où il y a des problèmes avec, justement, tu sais, des deals locales, ouais. Comme Sportsnet, qui, j'imagine, à un moment donné, ils ont dit, ben là, vous le montrez ben ouais. Le jeudi, nous, on le présente le vendredi, il y a pas personne qui nous écoute. Donc, dans les régions où, justement, il y a des genres d'entente avec des stations de télé locales, ben NXT sur le network est montré vraiment comme la semaine
mais
d'après.
Pour nous, à la télé, il reste pareil parce que moi, c'est enregistrement automatique.
Non.
Puis, ben, j'écoute.
Ben, moi aussi, je les enregistre. Puis, c'est toujours depuis deux semaines, c'est celui de la semaine
passée. Ah, c'est
peut-être
parce que moi, j'écoute celui sur
T'écoutes celui sur Sportsnet?
Sur Sportsnet, peut-être.
Exactement.
Peut-être ça.
Exact. Puis c'est la raison pourquoi okay, ouais, c'est ça. Fait que si vous enregistrez, mettons, le jeu... Tu sais, NXT Live, c'est le mercredi.
Ouais.
Nous aussi, c'était le jeudi sur le network. Si vous enregistrez l'émission de jeudi, vous n'aurez pas l'émission de la veille. Vous allez avoir l'émission de la semaine d'avant.
Ouais.
Fait que ils ont une semaine de délai. Donc, ceux qui se posaient la question, c'est ça la réponse.
Killer Cross, qui est maintenant Karrion Kross. Pourquoi ils ont changé son nom? Je sais qu'on n'aime pas Killer. Mais Karrion, excuse-moi, c'est laid.
J'imagine qu'ils voulaient trouver...
Clayton.
KK, là, il voulait trouver...
Clayton, ça marche.
Clayton Cross, ça se dit mal, je trouve.
Ben, Karrion, ça se dit mieux?
Non.
Bon.
Mais bon.
Bon, il attaque Tommaso Ciampa, on va voir.
Carrie Cross?
C'est déjà mieux.
Ouais, Carrie Cross?
Ouais. Mais en tout cas,
ouais.
Il attaque Ciampa,
ouais.
Tu sais, l'angle était correct. Début de Timothy Thatcher avec Matt Riddle qui l'aurait cru.
Timothy Thatcher, là, c'était probablement un des meilleurs talents sur la scène indépendante, ouais. Là, depuis des années. Là, ça fait des années que la WWE lui tourne autour. Finalement, ben oui, parce que Pete Dunne, ouais. Ne peut quitter l'Europe pour venir ici en Amérique du Nord, aux États-Unis. Donc, Timothy Thatcher qui est le nouveau partenaire de Matt Riddle.
Je suis brûlé avec mon thé. Velveteen Dreams, Challenge Finn Balor. Velveteen Dreams, il stagne en ce moment. Il stagne, c'est plate. Lui, il a vraiment besoin de la foule. Là. Velveteen Dream, là, c'est pas le meilleur lutteur. Puis en ce moment, il a pas le oomph d'un arena. Il a pas le oomph de la foule. Il a pas. Velveteen, je l'aurais laissé chez eux. Puis. Tu le réutilises quand ça va être important de l'utiliser parce que là, tu vas aller le faire perdre contre Finn Balor. Donc, c'est mon opinion. Raw, baisse de 4%, 1,842,000. C'est 4% de moins que la semaine dernière. Deuxième show le plus bas à égalité avec le 23 décembre 2019 dans l'ère moderne de Raw.
C'est sûr.
Mais le show est shit.
Mais ça n'a rien à voir.
Non, ça
n'a
pas. Mais NXT, le show était pas si pire la semaine dernière. Puis ça a baissé de 1,000. Ça n'a pas baissé de 8%. AEW, le show était bon. Ça a baissé de 1%. Ça n'a pas baissé de 800. Raw, là, le show est shit. Viking Raiders, qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Aux Viking Raiders.
Tu sais pourquoi t'es en char, ils ont des masques, des chapeaux de Viking?
Pourquoi le gars, il avait un morceau de dingue dans sa main, man? Viking Raiders sont done. Après ça, Bobby Lashley qui flippe un pneu. Le cliffhanger, là, c'est qu'elle flippe un plus gros pneu. Fait que moi, il fallait que je reste assis chez nous pour voir le partner flip un plus gros fucking pneu.
Et as-tu remarqué quelque chose de subtil? Et c'est tellement WWE. Ils ont... La semaine après, Rusev, le mari de Lana, se fait congédier. Je pense que j'ai jamais vu autant Lana flatter Lashley. Et je sais pas à quel point...
Ils devaient pas se séparer la semaine dernière? Ou la semaine d'avant?
Ah ben en plus,
ils étaient supposés split.
C'est
là.
Vrai, t'as raison.
Là, après ça, l'autre, elle la flatte comme si c'était un chat.
Oui, mais en plus, t'as rendu compte, il congédie le mari. Et je te le dis, là, un jour... On va voir que Lana est plus avec Rusev parce qu'il va essayer de passer quelque chose avec Lashley.
Maintenant, Nia Jax qui essaie de tuer Kairi Sane dans le coin.
Ouais, ça n'a pas été facile.
Excuse-moi,
mais
là.
C'est ça que je disais tantôt. Elle n'est pas constante. Je pense pas qu'elle tente volontairement de blesser quelqu'un.
Attends, j'ai pas
mais
fini.
Mais elle en échappe.
J'ai pas fini.
Littéralement, là, elle en échappe.
Là, Drew McIntyre qui passe au travers du clan de Zelina Vega. J'ai pas de problème avec ça, mais Zelina Vega, son clan, là, c'est le clan le plus important à Raw.
Oui.
Pourquoi eux, ils passent pas à travers toutes les babyface? Puis après ça, après Drew, là, tu vas avoir un vrai heel de prêt pour...
Il me semble qu'on y va dans le mauvais ordre. On a commencé avec Andrade, puis ensuite avec Garza. Pourquoi on a pas commencé avec Theory? Monter avec Garza, pour ensuite avoir peut-être une coupe de match avec Andrade. Puis, peux-tu m'expliquer pourquoi? que quand Andrade s'est fait, il a attaqué McIntyre.
Les gars sont pas rentrés.
Les gars sont pas rentrés. Vous êtes trois à vous regarder puis à faire comme, ben, je veux pas y aller. Pourquoi tu y vas pas? D'habitude, tu y vas.
Ils ont tué le clan. Ils ont tué le clan cette semaine. Il y a Claymore tout le monde du clan. Ben pour oui, rien.
Fait qu'à partir de là, McIntyre, s'il est plus fort que tout le clan, il y a pas une équipe qui va pouvoir, genre, pas gagner.
C'est ça.
Je veux dire, rendu là, une équipe va les traverser encore plus.
Après ça, au moins, les matchs Money in the Bank étaient bons, étaient le fun à regarder. Murphy, ah, Ray,
MVP.
Mais le match était bon pour le temps que ça a duré. Ça a duré 3 minutes, Pat, là. Pour le temps que ça a duré, il était assez heel, ouais, pour nous donner le goût que Cruz gagne. Puis Black Theory, c'est un excellent match. Baszler qui blesse une autre lutteur.
Ben, blesse en guillemets.
Ouais. C'est pas Nia Jax, là. Donc, c'était bon. Maintenant, SmackDown. 2 192, leur plus basse cote d'écoute. Pat, le ça show est shit! Comme, OK, maintenant, je vais garder Mandy puis Sonya Deville pour la fin, là, parce que c'était le highlight. New Day qui gagne le titre pour une 8e fois pour faire quoi? Dans le triple threat où les coéquipiers sont chez eux en train de faire des FaceTime sur Instagram pendant que leur coéquipier est dans le ring, Biggie qui liche la ceinture, lui, il a pas compris la distanciation sociale puis de pas rien mettre dans sa bouche.
That's dirty!
Big time! Pourquoi c'était le main event?
Je t'ai jamais vu.
Pourquoi c'était le main event?
Aussi fâché que dans les 5 dernières minutes.
Non, man, je suis tanné d'avoir de la lutte de marde, man. C'est de la lutte de marde. Un main event de marde. Le match était même pas bon, man. Miz, là, c'est pas un bon lutteur. C'est un bon gars. Non, ça sera pas notre cut. Ça sera pas notre teaser.
T'as pas idée comment c'est ça, le teaser.
Non, je suis tanné. OK? Là, après ça. Bon, attends.
Hey, t'es plus fâché que si notre affaire congédiée par la WWE.
Attends, mais parce que ça, c'est notre teaser, ça va arriver. Fait que j'avais pas besoin de teaser. Bon, next. Brooke qui bat Naomi, OK? Le match était correct. Mais pourquoi Brooke a battu Dana Brooke, là? Dana White qui a battu Naomi.
Dana White Brooke.
Attends! Fait que là, elle ça va battre Naomi. La semaine dernière, dans le qualifier, Money in the Bank, quand cette semaine, elle s'en va pour les Tag Team Championship avec Carmella, quand elle a rien gagné pour avoir des titres. La logique est où, Pat?
Sont à cause. T'as rendu compte qu'ils utilisent le même monde, sont à court d'idées pour ce monde-là?
Naomi a juste à gagner. Naomi gagne, là? Elle s'en va à Money in the Bank, elle s'en va faire son histoire. Brooke perd, elle s'en va pour les titres par équipe, elle s'en va faire son histoire rédemption pour essayer de gagner le titre. Là, elle a gagné ça. Naomi se retrouve avec rien.
Mais en même temps, si Brooke gagne, ça l'établit un peu plus pour son match par équipe.
Oui, mais non, parce que c'est un match par équipe, c'est pas un match tout seul. Tu veux établir une équipe, t'es même dans un match par équipe. Bliss Cross, ça c'est la semaine prochaine. Gulak Corbin, Money in the Bank.
T'es sûr que c'est les bons?
Ouais, là c'est les bons, Je dis ouais. Sasha Banks, Lacey Evans, un segment histoire. Le segment Braun Strowman puis l'autre là, Alexa Bliss là. Pat. Yo, c'est des pires acteurs que dans Fugueuse, goddamn!
Oh, il y a pire que ça, il y a Big Show sur son show qui est.
Non mais Pat, le gars il voit un cadeau dans le coin puis il fait oh. It's for me? Attends, il y a un cadeau qui est arrivé dans le coin. Je vais me lever, prendre mon temps. Attends, avant de prendre le temps, je vais prendre une gorgée de mon café. Ouf, j'ouvre le cadeau, il y a un masque. J'ai peur du masque. God damn, t'es 7 pieds 12.
7 pieds 12, c'est 8 pieds en passant.
Attends.
Wow.
Le Triple H Celebration la semaine prochaine.
Ouais, ça pourrait être cool.
Pendant une semaine, Pat?
Quoi?
Fait ils ont dit c'est pendant une semaine, là. Ça va être SmackDown, Raw pis NXT. Pis, non, c'est 2 semaines. C'est pas une semaine, c'est 2 semaines. Fait que pendant 2 semaines, on va célébrer Triple H. Combien de fois on va mettre son return là, de sa blessure?
Il y a rien d'autre à faire.
Mais ça, je suis correct. Mais pendant 2 semaines, c'est long. En tout cas, je te dis, Pat. Bon, attends, là, on va parler de mon extrait. Ben, j'en ai parlé tantôt de Sonya Deville. Fait que j'ai pas besoin d'en reparler, là. Je te dis que c'était bon.
Ben, je sais pas. Hey, moi, honnêtement, là, si je pouvais avoir une bière en ce moment, là, moi, je te regarde aller.
Hey, man.
Tu me donnes un show.
Je suis.
À la maison, là, ou dans votre auto, là, ceux qui nous écoutent en ce moment, là, vous réalisez pas à quel point j'ai jamais vu Kevin Raphaël comme ça depuis 10 minutes.
Mais imagine Catherine qui m'écoute à la maison. Moi, je parle à voix haute quand j'écoute la lutte, là. Puis, ça me fâche parce que.
Je pense que ça pouvait sortir de la maison. Ah, elle sortirait.
Parce que je suis, moi, là, pour le podcast, j'écoute tout. Je suis investi.
Ouais.
J'achète les t-shirts. j'écoute les anciens matchs.
Ouais.
Je sens que mon fandom de lutte n'est pas respecté en ce moment. Je comprends que il y a une pandémie. Je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de lutteurs de disponibles. AEW a eu une pandémie. AEW, le show, il est bon. Fait que si leur show, il est bon, il n'y a pas de raison pourquoi ton show n'est pas bon. Question du public.
OK, Kev, juste avant la question, les questions du public, je te connais, là. Laisse-moi poser la première question, puis ça va juste te permettre de reprendre un peu... tabarnouche! Wow! Cy Young, qui est toujours un nom qui me fait autant plaisir à lire. J'ai hâte d'ailleurs que Babe Ruth nous envoie sa première question. Si vous pouviez revenir dans le passé, ce qui est un peu ironique de la part de quelqu'un qui s'appelle Cy Young, tu vois, je me contrôle plus. Si vous pouviez revenir dans le passé, quel moment aimeriez-vous revivre live? Un moment que vous avez vécu live, un autre moment que vous n'avez pas vécu, mais que vous auriez aimé être
Est-ce
là.
Est-ce que je peux t'en donner deux?
Vas-y.
OK, fait que je vais te donner WrestleMania, mon premier WrestleMania en Californie,
ouais.
C'était le cash-in de Seth Rollins et le retour de The Rock. C'est mes deux moments de ça. Mais il y a un moment un peu plus obscur, c'était Edge face à Chris Benoit, un house show à Montréal. Puis c'est pour le titre. C'est dans le temps que je savais pas que les titres ils changeaient pas de main pendant les house shows. Puis Benoit puis Edge m'avaient vraiment investi dans le match. Fait que je dirais que ça serait ces deux-là.
Un événement que t'as pas vécu live, mais que t'aurais aimé ça être. Où t'aurais aimé être?
Je te laisse répondre où t'étais, puis je vais y penser.
Mon événement, j'aimerais ça revivre, c'est moi aussi mon premier WrestleMania. Ouais. Moi, c'était WrestleMania 18 de Rock Hogan. C'était complètement fou l'ambiance qu'il y avait là. J'aimerais ça pouvoir revivre ça. C'est aussi connexe avec Hogan. L'endroit où j'aurais voulu vivre live, là, c'est WrestleMania 3. WrestleMania 3, ça devait être complètement fou. Puis même à 10 ans, là, j'en aurais eu des souvenirs là, encore aujourd'hui, je suis sûr.
Moi, c'est quand Undertaker a perdu contre Brock Lesnar.
J'étais pas là. Non, c'est vrai.
Est-ce que je t'ai déjà raconté j'étais où?
Non.
J'ai jamais raconté cette histoire-là. Okay, je commence en humour. Ça fait quoi, 4 ans, 5 ans?
C'était l'année avant.
C'était WrestleMania 30, me semble.
Non, c'était 30 ou 31?
Whatever.
C'est celui à Nouvelle-Orléans? C'est ouais. WrestleMania 30?
Ouais.
Ouais, c'est WrestleMania 30.
Si vous connaissez Julien Lacroix, qui est maintenant une méga superstar, et
ouais.
On faisait un show, c'était gratuit, et j'ai toujours me rappelé, j'avais eu une marche avec Julien, puis on était comme, man, on fait des shows gratuits, c'est tough l'humour, nanana. Et là, je reviens, et on est genre 20 humoristes sous le show. On fait toutes 5 minutes, là, c'est de la merde. Mais c'est pendant WrestleMania. Et WrestleMania jouait dans la loge. Fait qu'on était plein d'humoristes à regarder WrestleMania. Donc là, Undertaker rentre, il y a le premier F5, vite, j'ai le temps de l'écouter, je m'en vais en haut, je vais en faire mon show d'humour, puis je dis, anyway, le match, il va pas être fini quand je vais redescendre. Puis c'était au Club Soda, fait qu'il faut que tu montes des matchs sur descend. Et là, tout pendant WrestleMania, ça crie, ça fait même que t'es entends de la scène, là, t'es entends de la foule, les gens criaient à cause de WrestleMania. Je fais mon show, je redescends les marches, je dis, shit, il y a aucun bruit, tout le monde est parti. Il y avait 20 humoristes sur le show, on était à peu près 25 en bas. Il y avait, à part celui qui faisait son show après, là, on était une vingtaine devant un écran à rien dire. Il y a rien qui se passait.
Wow.
Tout le monde était en état de choc.
Wow.
Devant un petit laptop, là. Puis moi, je savais pas qu'est-ce qui s'était passé. Je regarde et tout ce que je vois, c'est Brock Lesnar. Je vais toujours me rappeler. Brock Lesnar qui lève son bras, tu sais, il est à quatre pattes. Puis Paul Heyman dans le coin. Puis j'ai fait, y a-tu triché? Y a personne qui me parle, là.
Il y avait quelqu'un qui avait la face du fan qu'on a vu.
Tout le monde avait. C'était, je te dis, je capotais. Là. Undertaker avait perdu, donc ce serait ça.
Hey, faut juste que je dise, pendant qu'on se parle, c'est vraiment cool. Je viens de recevoir un message texte. Faut que j'en parle. Et le message texte dit, puis on va en parler dans l'extra. Puis je vais faire un lien avec ça. Le message texte dit, CM Punk veut savoir le nom du joueur de hockey que. que Jean Trujillo et Dino Bravo se sont battus avec dans qu'on parle dans l'épisode
ouais,
de Dark Side of the Ring.
J'ai
ça très drôle.
C'était une de mes questions, tu devrais écouter le podcast. Kevin Côté demande, quel est votre angle préféré qui n'a jamais eu de fin ou s'est terminé sans raison? De mon côté, c'est la saga Samoa Joe qui s'est fait kidnapper par des ninjas à TNA, je me rappelle même pas. Kevin Côté, c'est la première fois qu'il nous envoie une question, donc je voulais vraiment la mettre. Un angle qui n'a jamais eu de fin.
Moi, je vais te nommer quelque chose, puis je vais l'expliquer parce que ça peut paraître awkward, la façon dont je vais le dire. juste avant que Chris Benoit y arrive, ce qui arrive.
Ouais, l'affaire, ouais. C'est, moi, c'était
l'affaire avec Vince McMahon, ouais. Qui, c'est en
guillemets. La limousine explose.
La limousine explose. Et j'aurais voulu savoir à quel point il se serait planté avec cet angle-là. Parce que qu'est-ce que tu fais? Vince, il meurt-tu? Je veux dire, est-ce que je comprends que je pense que le but c'était de pas faire, tu sais, que Vince soit plus sur les shows, mais qu'est-ce qui serait arrivé? Je serais curieux, puis la question a été posée récemment à Dave Meltzer, puis même Meltzer le sait pas où l'angle était censé s'en aller.
Il y a personne qui le sait.
Fait que je serais juste surpris de voir qu'est-ce qui aurait, puis je veux dire, la limousine a explosé, là. Comment est-ce qu'il se serait tiré d'affaire pour ramener Vince? Ça aurait été mal.
Ça aussi, c'est mon angle, Kev.
David Malenfant qui dit, est-ce que Gronk, Rob Gronkowski, va revenir à la WWE malgré l'échange qu'il a amené cette semaine à Tampa Bay? Ben, ou bien s'il va finir sa dernière année de contrat au football, ben, puis il va revenir après?
Moi, je peux te confirmer que Gronk ne revient pas à la WWE s'il y a un contrat avec la NFL. Ils n'ont pas le droit.
Ouais.
Ils ont pas le droit de faire autre chose. Ils ont pas le droit de faire du ski. Ils ont pas le droit. Tu sais, Tom Brady parlait dans une entrevue dernièrement. Il dit, je peux même pas faire de moto.
Ouais, ouais.
Il en fait pareil.
Mais là, c'est sa dernière année de contrat à Gronk.
Parce que sûrement qu'il va re-signer. Dans le fond, il était en retraite.
Ouais.
Là, il est revenu. Il appartenait
aux Pats.
Les Pats l'ont échangé. Ils vont sûrement reconstruire son contrat pour lui donner un nouveau contrat.
Reconduire.
Non, reconstruire. Ils vont changer son contrôle complet.
Ah, okay.
Fait que moi, je suis pas mal sûr que ça qui va arriver. Puis je pense que Gronk va se timer avec Tom Brady. Donc
très drôle. J'ai vu une story Instagram de Louis Morissette, qui est un fan des Pats depuis toujours. Et là, je pense qu'il va devenir un fan des Buccaneers.
Ben moi, les Buccaneers, là, puis je vais pas parler de football sur le podcast, mais je vous dis, moi, ça fait longtemps que je parle des Buccaneers. Tout ce qui leur manquait, c'était un quarterback qui joue pas pour l'autre équipe en lançant des interceptions. Là, ils ont un tight end. Il y a Anthony Auclair, notre Québécois.
J'allais dire, il y a pas un Québécois qui joue là-bas.
Anthony joue là-bas. Anthony, il va avoir sa place. J'ai hâte de voir à quel point il va avoir sa place, mais il va l'avoir.
Est-ce qu'Anthony va être à sans restriction bientôt?
J'ai reçu un message texte tantôt.
Tu vois?
Sans restriction, allez l'écouter, le podcast.
Nostradamus.
François R. demande, nous voyons de nombreux lutteurs ou encore une masse qui ont encore une masse musculaire très développée. Quels sont les produits qu'ils peuvent prendre et ceux qu'ils ne peuvent pas prendre?
Ceux qu'ils prennent, est-ce qu'il y a des risques pour la santé? Bon, au niveau de la santé, on n'est pas médecin, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Par contre, tout ce qui est stéroïdes anabolisants, ça, c'est pas permis. Ça fait partie des produits qui sont testés par la WWE. Où la WWE et ses lutteurs peuvent s'en tirer, c'est que tout ce qui est hormones de croissance, en anglais c'est growth hormone, donc tout ce qui est hormones de croissance, ça c'est pas testé à la WWE. C'est testé aux Olympiques, c'est testé pour le UFC, c'est testé dans le sport de façon générale, mais pas à la WWE. Alors des fois, les gars ont l'air d'être ces stéroïdes, mais dans le fond c'est peut-être pas vraiment les stéroïdes anabolisants, c'est peut-être sur les hormones de croissance qu'ils sont, qui permettent quand même de prendre la masse puis de développer les muscles, les coudes. Donc, c'est la façon des fois que les lutteurs ont de s'en sortir, parce que bon, dans le fond, c'est pas un vrai sport, donc il y a pas vraiment il y a pas un aussi gros impact que si t'es capable de courir le 100 mètres un dixième de seconde plus vite que tes adversaires, donc c'est une des façons qu'ils ont de s'en sortir.
Carl qui pose plusieurs questions. Avec les nombreux congédiements de la WWE, est-il possible qu'elle monte de nouvelles stars? C'est qui? Oui, je pense qu'on le voit avec Zelina Vega en ce moment.
Bianca Belair.
Zelina
Vega était déjà là,
mais je pense qu'elle a une plus grosse place. Bianca Belair, moi, c'est ce qu'ils font avec Charlotte. Là. Elle était même pas à Raw cette semaine. Là. Mais elle va être avec NXT probablement. Mais tu sais, c'est quand même une des grosses vedettes. Il n'y avait aucune grosse vedette de la division féminine à Raw cette semaine, à part Shayna Baszler.
En même temps, on ne sait pas si c'est Charlotte qui demande à être moins utilisée.
Avec toi.
C'est possible aussi.
De l'extérieur. Par la suite, il dit, est-ce qu'un personnage comme celui de Eugene pourrait marcher aujourd'hui et écouter l'extra? Merci, Carl, d'avoir écouté l'extra.
Je pense pas qu'aujourd'hui, un personnage comme Eugene, ça serait très, très, très jugé sur les réseaux sociaux. Et je suis pas certain que, je suis pas certain qu'il répéterait cette expérience-là.
Moi,
Je sais pas à quel point, en fait.
Moi, je pense que ça marcherait si.
Parce qu'ils l'ont refait un peu avec Bailey, mais justement, sans l'élément qui leur aurait permis de se faire juger sévèrement. Donc, je pense qu'il irait plus là.
Ça marcherait si c'est une vraie personne handicapée.
Ah, absolument. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça,
Ils le feront pas.
Ils le feront pas.
Matt Roy, qui a eu le meilleur cash de la meilleure.
Le meilleur cash-in du Money in the Bank.
Tu peux pas passer à côté de Seth Rollins.
Ah, moi, pour moi, c'est Dolph Ziggler.
Ouais, ou Dolph Ziggler.
Dolph Ziggler, WrestleMania, mais, après WrestleMania 29.
Mais celui de The Miz.
Ah, fallait que tu m'en parles.
Personne l'a vu venir. Personne, et puis leur mère l'a vu venir. Donc ça, c'est un vrai Money in the Bank cash-in. Il en reste deux. Simon Nicole, quelles sont vos chansons thèmes préférées? Pat, c'est Sasha Banks.
La nouvelle.
Ouais, la nouvelle.
Sasha Banks avec Snoop. Snoop ouais. Dogg. J'ai écouté durant les dernières semaines Hip-Hop Evolution.
Ouais, c'est vrai, faut que je l'écoute, ça a l'air fou.
Il y a quatre épisodes par saison. Il y a quatre saisons. Moi, je suis un fan de Hip-Hop. Donc, j'ai vraiment...
Cody, Chris Jericho. Lance Archer, ça c'est mes top thèmes en ce moment. Street Profit, Real Replay.
Street Profit, c'est vraiment. Ouais. Angel Garza.
Angel Garza, c'est
Angel
vraiment.
Angel Garza,
bon
pour
aussi.
Vrai, là. Le
ça fait avec lui.
Ouais, ouais. Le bassin me va de gauche à droite
comme
quand la tune joue.
Comme je dis dans le show, je suis émoustillé.
Absolument.
Destroyer X demande quel superstar a été renvoyé aura le plus de chance ailleurs. Et sans aucun doute, ça va être Rusev.
Ben, Rusev, moi, si je suis AEW, je regarde vraiment pour Rusev Revival. Je regarde pour.
Carl Anderson puis Luke Gallows.
Si j'ai choisi juste une équipe, je prends Revival ouais, avant eux autres. Je regarde pour probablement Deonna Purrazzo et probablement Chris Hero, qui est son nom. Moi, c'est sûr que je regarderais. Peut-être que tu peux pas toutes les signer, mais ça serait là dans ma liste d'agents libres, là, ouais. Ils sont au top de ma liste.
C'est le pas défini. Là.
Mais non, il reste l'éphéméride. L'éphéméride, mon cher Kevin, 23 avril 2007, donc il y a 13 ans. Je sais pas si tu vas te souvenir de ça. Londres, Raw à Londres, John Cena contre Shawn Michaels. Ça a été... C'est un match...
C'est-tu après WrestleMania?
C'était le 23 avril, donc c'était pas longtemps après WrestleMania, leur tournée européenne.
Oui, 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 oui.
Un match de 56 minutes qui avait été considéré encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur match de l'histoire de Raw. Ça avait été un match complètement fou. Ça l'avait beaucoup aussi aidé John Cena, qui était encore vu à l'époque comme quelqu'un qui arrivait pas à bien travailler dans l'arène. Et je me rappelle à ce moment-là, on disait même, tu sais, pendant une heure de temps, là, un autre lutteur peut pas juste supporter son adversaire sur son dos. Là. Faut que l'autre soit talentueux aussi. En 2007, ça avait été voté le quatrième meilleur match. De l'année. Tous ceux là, qui nous demandent en confinement qu'est-ce que vous nous conseillez de regarder, ben allez sur le WWE Network. Peut-être qu'il est disponible sur YouTube, je ne sais pas, mais définitivement, allez sur le Network. Raw du 23 avril 2007 à Londres, 56 minutes, HBK contre John Cena. Un match à voir. Vous nous taggerez sur les réseaux sociaux si jamais vous l'écoutez, puis vous nous direz ce que vous en pensez. Hey! Le show est fini.
Ben, n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur Cube, Stitchers, Google Play, Apple Music, Spotify. Laissez-nous 5 Star Frog Splash. Laissez-nous des commentaires positifs, sinon on les lit pas. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Kevin Raphaël 21, Pat Laprade. N'hésitez pas à nous tweet, n'hésitez pas à nous donner, à faire aller la conversation avec hashtag les antipodes de la lutte. Sans restriction, mon podcast, vous pouvez aller l'écouter, downloader, faites du bruit avec ce podcast-là parce que c'est le podcast du peuple. Puis dites-moi qui vous voulez que je rentre en entrevue sur le podcast parce que Pat, ça s'en vient. Finalement, Antipode Extra cette semaine, Dino Bravo, vous... J'ai pas
c'est un beau mashup de Deonna Purrazzo ouais. Avec Dino Bravo.
Vous voulez pas manquer cette entrevue-là. C'est une des premières fois que je fais autant de recherches. Puis finalement, le livre de Pat Laprade disponible sur ECW Press.
T'es le maître de la plug, Kevin. J'espère plus jamais te voir fâché comme aujourd'hui.
Yo, ils m'ont fait paniquer.
On vous remercie d'avoir été là. Et en mon nom, Pat Laprade et celui de Kevin Raphaël, on vous dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Pour vrai, même, je l'ai jamais vu fâché de même. Rendu-té, à chaque fois que tu t'es dessus.